Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin, et aujourd'hui pour parler de l'Asie centrale, et de ses relations avec la Russie notamment, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Stéphane Samaran, directeur du domaine Stratégie, Normes et Doctrine à l'IRSEM, spécialiste aussi et surtout de l'Asie centrale pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque je peux préciser que vous êtes largement spécialisé sur cette terre géographique pendant votre carrière, aussi bien comme attaché de défense au Tadjikistan et au Kazakhstan, que pendant vos passages à l'état-major des armées. Donc bonjour colonel et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre, merci.
Alors je vais dire que c'est une émission que je suis très content de faire, puisqu'il me semble que c'est une zone et des pays qui sont mal, voire très mal, connus en France. Alors on les désigne un peu rapidement parfois comme les pays en stand, ce qui est tout à la fois techniquement pas faux et en même temps assez réducteur. Et je vais donc les citer. Donc, je vais commencer par le Kazakhstan, qui est à la fois le plus grand et le plus au nord de ces cinq pays, qui a une immense frontière terrestre avec la Russie qui est juste à son nord. Et puis ensuite, en descendant, donc sur la frange ouest, ça fait Ouzbékistan puis Turkménistan, du nord vers le sud, et à l'est, le long de la frontière avec la Chine, Kirghizistan et Tadjikistan. Alors évidemment, on va avoir l'occasion d'en reparler, parce que les considérations géographiques sont très importantes, mais ici, et comme souvent, je vais recommander de jeter au moins un coup d'œil à une carte pour partir sur de bonnes bases, notamment parce que ce sont des frontières vraiment pas faciles et assez contournées, disons, et c'est d'ailleurs à dessein, et c'est important, et on va évidemment en reparler. Et si je vous ai donc proposé de faire cette émission, c'est pas seulement pour le plaisir de la découverte géographique ou stratégique, mais c'est parce que c'est une région, je crois, plus importante qu'on ne croit, et révélatrice de tout un tas de choses sur la présence et l'influence russe, et ses recompositions prévisibles dans le cadre et en conséquence de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec Céline Bayou sur les voisins européens de la Russie, notamment les pays baltes, ou même il y a un peu plus longtemps avec Isabelle Facon et Marc Julien sur la Chine, c'est l'idée que la guerre en Ukraine, c'est pas, évidemment pas un conflit qui s'arrête en Ukraine, ni même à la relation entre la Russie et l'Europe ou l'Occident. C'est un fait stratégique majeur de la décennie qui va recalibrer énormément des relations internationales et notamment des relations de la Russie à l'échelle régionale et mondiale. Et je crois que l'Asie centrale, c'est une région qui est très révélatrice de tout ça, parce que c'est tout à la fois traditionnellement une sorte de précaré de la Russie, une zone qui reste évidemment largement sous influence économique et politique et même militaire, et en même temps qui pourrait être tentée de prendre ses distances à la faveur de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et en même temps, je vais tout de suite préciser que c'est aussi une région qu'il ne faut peut-être pas prendre de manière trop monolithique, parce que ce sont des pays qui ont des intérêts parfois opposés et même des conflits ouverts, comme on le verra sûrement. Et justement, j'aurais aimé commencer par faire un petit retour en arrière et parler à la fois de la place et de la jeunesse de ces États au sein de l'URSS, puisque ce sont des républiques qui ne faisaient pas seulement partie du bloc soviétique, mais de l'URSS même, et qui d'ailleurs naissent et prennent leurs frontières donc à la faveur de cette intégration. Donc comment est-ce que ça s'est fait, et quelles conséquences aussi ça va avoir, disons, cette intégration, cette absorption de cette région dans l'URSS à partir des années 20?
Eh bien, vous l'avez dit, ce n'est pas un bloc monolithique. L'appellation d'Asie centrale est déjà assez floue, mais on la réserve le plus souvent aux cinq républiques ex-soviétiques que vous avez nommées, même si géographiquement, on pourrait toujours s'étendre un peu vers le sud avec l'Afghanistan, remonter vers la Mongolie, avec des problématiques qui sont pas inintéressantes. Ces cinq républiques sont rentrées dans l'Union soviétique, d'abord parce qu'elles étaient auparavant dans l'Empire russe. Elles y étaient depuis récemment, puisqu'en fait, alors à des degrés divers, ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan a commencé à être colonisé par les Russes à partir du début du XVIIIe siècle. On a célébré il n'y a pas tellement longtemps le tricentenaire de villes comme Semipalatinsk, par exemple, fondée en 1718. Et on a là des postes cosaques, donc des postes frontières, qui sont au contact avec un État kazakh qui est aux frontières assez lâche, assez souple, et qui est déjà un peu un état tampon par rapport à des états qui sont situés plus au sud, qui sont des khanats comme les khanats de Kiva, de Kokand et de Boukhara, qui d'ailleurs, eux, ont donné naissance plus tard aux républiques d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kyrgyzstan. L'intégration s'est faite dans l'Union soviétique avec la douloureuse période de la guerre civile. Donc la guerre civile qui part de la révolution d'octobre de 1917 et qui s'achève en 1922 avec la création de l'Union soviétique. Ça se passe de manière très différente. Au Kazakhstan, on a des élites qui sont russisées, qui ont suivi l'enseignement russe, qui ont acquis, je dirais, un niveau de réflexion qui les amène à rechercher l'émancipation. Donc on est déjà dans une étape de pré-indépendance, alors que l'Union soviétique n'est pas encore créée. Donc ça, c'est une particularité du Kazakhstan. En revanche, pour ce qui est des pays qui sont issus des Émirats, de Kiva, Kokand et Boukhara, les choses sont différentes puisque le pouvoir de fait des émirs qui étaient à la tête de ces entités a été respecté globalement par l'Empire russe. Et ce n'est réellement qu'en 1916, lorsque l'Empire russe mobilise pour envoyer des soldats vers l'Ouest, comme quoi la mobilisation...
Est un sujet qui commence
très tôt. On a les premières révoltes qui sont faites. Et des révoltes qui sont attisées aussi par le Parti social-démocrate de Russie, dont la majorité bolchevique va très rapidement s'emparer du sujet et essayer d'encadrer les élites et les masses, plus difficile pour les masses qui sont essentiellement paysannes, dans la résistance contre cette mobilisation. Mais très rapidement, d'autres éléments viennent s'ajouter, avec la révolte des Basmachi, menée par Enver Pacha, donc un ancien général de l'Empire ottoman, qui arrive en Asie centrale avec la volonté de créer un nouvel émirat du Turkestan, un nouveau califat, puisque le califat a disparu en même temps que le sultan dans l'Empire ottoman. C'est le moment d'une confrontation avec ce qui commence à être l'armée rouge. Et donc avec des campagnes absolument épiques, mené par un général soviétique qui naît à Bishkek, d'ailleurs, Mikhail Vassilievitch Frunze. Et Frunze, c'est je dirais, on dit que Trotsky est le fondateur de l'armée rouge, oui, mais le général Frunze en est réellement le héros, puisque il réussit...
Bishkek, je peux préciser que c'est au Kirghizistan.
Tout à fait. Qui,
donc,
d'ailleurs,
sur les marges, voilà, en fait, très orientales, voilà, tout à l'est de cette région-là.
Et qui, pendant l'Union soviétique, a été rebaptisé Frunze, justement, en l'honneur du général Frunze. Frunze enterré sous les murs du Kremlin. Donc, c'est un héros de l'Union soviétique. Mais Frunze, donc, ses victoires qui l'amènent à conquérir pour l'Union soviétique des territoires comme la Crimée, l'Ukraine, la Transcaucasie, et bien entendu l'Asie centrale qui nous préoccupe. Donc un combat qui s'arrête en août 1922 avec la défaite et la mort d'Enver Pacha à quelques dizaines de kilomètres de Douchanbé, qui est l'actuelle capitale du Tadjikistan.
Mais alors donc, après cette conquête, en quelque sorte, vient le moment de l'intégration et de la définition, notamment administrative, parce que vous l'avez dit, mais c'est des régions alors qui sont très variées, il y a à la fois de la montagne, des steppes, etc. Mais donc c'est aussi des régions où les frontières peuvent être des notions un peu vagues, on parle, c'est peut-être plus intéressant à l'époque de penser à des marges, à des zones tampons, etc., que à des frontières délimitées linéaires, comme on les a en Occident depuis maintenant longtemps. Mais il va bien falloir quand même y passer, et c'est ce qui va se passer dans les années 20, notamment sous l'impulsion de Staline. Donc il y a des frontières, alors j'ai envie de dire artificielles, mais on peut préciser que toutes les frontières sont toujours artificielles. Et que, voilà, mais là, en l'occurrence, les frontières, de la manière dont elles vont être tracées, c'est assez intéressant, parce qu'il va y avoir une vraie volonté de découpage, de fragmentation des grands bassins de population. Il y en a notamment un qui est la vallée de la Fergana. Enfin, en tout cas, il va y avoir une volonté de la part du pouvoir central soviétique de morceler un peu cette région et entre ces différentes entités, quoi.
Alors tout à fait, c'est un travail de longue haleine, puisqu'en fait, il commence dès août 1922. Il y a une première constitution de l'Union soviétique en 1924 avec, je dirais, un prédécoupage avec des, on va dire, des proto-républiques socialistes soviétiques dans la région qui reprennent, en fait, des divisions au sein de ce Turkestan, tel que l'avait baptisé l'Empire russe, et qui reprenait les différents émirats, les différents khanats. Il faut réellement 12 ans entre cette constitution de 1924 et celle de 1936 pour que Staline, ce grand chirurgien de la carte des peuples, passe au scalpel réellement et décide, et en tout cas valide, le dessin des frontières, et particulièrement des frontières intérieures auxquelles vous faites allusion. Donc ça se fait avec des commissions de géographes, d'ethnologues, qui vont aller très loin, parce que l'obsession de Staline, qui était au départ le commissaire du peuple aux nationalités, au pluriel, est donc quelque part le spécialiste des peuples de l'URSS. Il faut dire que lui-même, né en Géorgie, dans un Caucase où chaque vallée, à la limite, abrite une ethnie ou une culture particulière, il était particulièrement sensibilisé par ça. Mais il était sensibilisé surtout par l'équilibre entre les différentes nationalités. Et il avait, dès le départ, une idée, c'était de fractionner les capacités de réunification de certains peuples et, au contraire, de mettre en avant d'autres peuples qu'il pouvait considérer comme plus dociles, ou en tout cas comme étant des courroies de transmission du pouvoir depuis le Kremlin. Donc pour les frontières extérieures, ça s'est relativement bien passé. Donc les frontières extérieures avec l'Iran, avec l'Afghanistan et avec la Chine. La Chine n'est pas en position de force à cette époque-là. On est toujours dans le siècle d'humiliation de la Chine, donc elle n'est pas en position de force pour... Elle attend son tour après la dissolution de l'URSS, mais elle ne le sait pas encore. C'est surtout le tracé des frontières intérieures qui pose question, puisque en essayant de donner à chaque communauté ethno-culturelle un territoire éventuellement morcelé, éventuellement perclus, un peu vermoulu d'enclaves, on va créer des bombes à retardement que sont ces enclaves, et donc de futurs conflits à venir. Donc les futurs conflits gelés qui existent, à dire vrai, un peu partout sur le territoire de ce qu'on appelle généralement l'espace post-soviétique, donc notamment au sud du Caucase, mais aussi pas mal en Asie centrale. Et effectivement, Fergana, avec ses enclaves, donc là, on a atteint, je dirais presque, les confettis, puisque on a en Ouzbékistan une enclave kirghize, une enclave tadjik, et au Kirghizistan, 4 enclaves ouzbèques et 2 enclaves tadjiks, qui sont petites, ce sont des timbres-postes réellement sur la carte, mais à chaque fois, ce sont des possibilités de problèmes, d'affrontements, souvent pour des raisons économiques, toujours pour les mêmes problèmes, qui sont les problèmes de l'eau et le problème de l'accès à la terre arable dans une région où cette terre est rare et où les essors démographiques peuvent être importants.
Ouais, on peut préciser, donc c'est vraiment la vallée qui est le grand bassin de peuplement de la région, et ils réussissent à mettre quand même 4 pays sur le tracé de la vallée. Alors rien que les contours des pays sont déjà compliqués par rapport au tracé de la vallée, avec en plus des enclaves pour ajouter un peu de complexité à la complexité. Mais donc ça commence à arriver à des questions qui en fait deviennent très actuelles, c'est la question de la dissymétrie de l'accès aux ressources. Et de fait, dans ces 5 donc, républiques post-soviétiques, à l'époque république soviétique, en fait, on va peut-être les prendre dans l'ordre, mais il y a deux grandes ressources, c'est l'eau et c'est les hydrocarbures, et en fait, ceux qui ont l'un n'ont pas l'autre, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les deux sont tout à fait aussi importants l'une que l'autre dans ce cas-là, parce que l'accès à l'eau, notamment, est quelque chose d'absolument primordial. Et on imagine bien que tant que tout ça restait sous le grand chapeau et le patronage soviétique, d'un pouvoir autoritaire, etc., ben, évidemment ça bougeait peu, mais évidemment ce sont des problématiques qui se posent beaucoup à la dissolution du bloc. Donc est-ce que vous pourriez nous dire peut-être voilà, comment ça se place ces questions d'accès à ces ressources extrêmement convoitées, que sont les hydrocarbures d'une part, qui ont tendance à monter, enfin, progressivement on en a découvert de plus en plus, et puis surtout l'eau, qui est vraiment la ligne de vie de la région.
Alors effectivement, ces 5 républiques peuvent être séparées en 2 groupes. Le groupe des 2 pays dits de l'amont, donc des pays qui ont des ressources en eau, c'est-à-dire le Kirghizistan et le Tadjikistan, qui ont des glaciers, encore pour quelques temps.
Ça, on peut dire que c'est les pays de l'Est, du Sud-Est.
Tout à fait. Et on a les 3 pays qui sont situés plus dans la partie occidentale et méridionale, qui sont les pays de l'aval, donc qui ont besoin de l'eau qui vient des pays de l'amont pour l'irrigation, pour les cultures, surtout dans des pays où, à l'époque soviétique, la culture du coton a été fortement répandue.
Et on peut préciser au passage qu'il n'y a pas beaucoup de cultures plus consommatrices en eau que le coton.
En plus, c'est même une horreur. On pourrait parler de la culture du coton pendant très longtemps.
Mais on va pas rentrer. Il y a plein de trucs à dire sur les désastres écologiques que ça a été, la mer d'Aral, etc. Il y a plein de problèmes qui viennent entièrement de la gestion soviétique des ressources en eau dans la région. Voilà.
Et dans les 3 pays de l'aval, on a en revanche donc distribution ironique des ressources du sous-sol et en particulier des hydrocarbures, donc avec des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan qui ont alors tantôt les uns c'est plus du pétrole, les autres c'est plus du gaz, mais qui ont donc des richesses qu'ils peuvent exporter et qui contribuent au niveau de vie de la population. Ce que n'ont pas les 2 premiers, parce qu'il existe un cours mondial des hydrocarbures, mais il n'y a pas de cours mondial de l'eau. Et lorsque le Tadjikistan dit à l'Ouzbékistan « Oui, je veux bien faire des relâchés d'eau depuis mes grands barrages pour que tu aies davantage d'eau pour l'irrigation de tes champs, eh bien, il faut que tu me payes. » Et donc l'Ouzbékistan va répondre « Ah ben non, l'eau, c'est un don de Dieu. » Et là, l'autre réponse, c'est « Ben oui, et le gaz et le pétrole, c'est pas un don de Dieu. » Voilà, c'est une... ça fait partie de ces irritants qui existent dans les relations entre ces États.
Avec, on pourrait dire qu'il y a une des 2 ressources qui est plus volatile que l'autre, qui peut s'échanger à l'échelle mondiale, qui est évidemment le gaz et le pétrole, mais en fait, quand on regarde, c'est pas si évident que ça, parce que c'est des pays qui sont enclavés, donc en fait, ils peuvent pas... Il faudrait, pour exporter leurs ressources, il faudrait des gazoducs qu'ils n'ont pas. Ils peuvent pas exporter en liquéfié par la mer parce qu'il n'y a pas de mer. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Qatar, c'est pas les pays du Golfe qui ont une immense manne d'argent, etc. C'est des ressources réelles, mais les moyens pour les exploiter, en tirer pleinement avantage, sont pas forcément toujours là.
Alors, vous avez prononcé le mot d'enclavement, qui est effectivement une grande caractéristique et qui est encore plus concernant l'Ouzbékistan, qui est le seul pays au monde, avec le Liechtenstein, mais bon, toute proportion gardée, bien entendu, à être doublement enclavé, c'est-à-dire n'être entouré que de pays qui eux-mêmes n'ont pas d'accès à la mer. Donc ça, c'est une caractéristique. Une caractéristique avec laquelle donc les ingénieurs et les responsables des infrastructures de l'époque soviétique ont réussi des équipements qui permettent alors tous les réseaux ferrés, réseaux électriques, plus aussi réseaux de tubes pour les hydrocarbures qui ont été faits à l'époque soviétique, vers la fin de l'époque soviétique, ont tous pour vocation de partir vers l'ouest, puis vers le nord, c'est-à-dire en fait vers la Russie. Donc c'est un élément important pour les relations que ces pays peuvent avoir avec la Russie, et aussi pour les options qu'ils auraient ou qu'ils n'auraient pas pour varianter les itinéraires.
Ben justement, ça pose la question, déjà, on va revenir, évidemment, c'est une question de longue haleine, mais voilà, de la place et de l'importance de ces républiques-là, de ces territoires-là dans le système soviétique et leurs relations vis-à-vis de Moscou. Donc voilà, quelles sont-elles? Quelle importance est-ce que ça a, l'Asie centrale, pour Moscou? Et d'ailleurs, aussi d'une manière dynamique, est-ce que ça évolue au fur et à mesure jusqu'à la dislocation de l'URSS?
En fait, après avoir conquis l'Asie centrale, après la mise en place de la constitution de 1936, l'Asie centrale n'intéresse pas vraiment le Kremlin. Sauf dès le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il s'agit de déplacer le maximum d'agents économiques, donc des industries surtout, qui sont dans la partie européenne de la Russie, et de les déplacer à l'est de la chaîne de l'Oural, donc qui fait traditionnellement la séparation entre l'Europe et l'Asie. Et donc la Sibérie s'est retrouvée donc encore plus équipée, mais aussi l'Asie centrale. Mais à des degrés divers. Donc certes, des entreprises sont venues s'installer en Asie centrale. C'est presque du domaine de l'anecdote, mais Mosfilm, donc les grands studios du cinéma soviétique, des grandes réalisations d'avant-guerre, donc quitte Moscou et s'installe à Tashkent et à Almaty. On a ça qui est mis en avant comme étant un atout culturel. Ce que l'on retient plutôt, et ce que les gens dans ces pays retiennent surtout, c'est quand même les déportations massives qui ont été faites de peuples qu'on a dit des peuples punis. Des peuples punis, ce sont pour Staline des peuples en qui on ne pouvait pas avoir confiance. C'est-à-dire des peuples qui, pendant la période de la guerre civile, et la fin de la Première Guerre mondiale et pendant la guerre civile, ont montré leur capacité à s'allier avec un envahisseur. Et donc, un certain nombre de peuples ont été déportés, assez nombreux quand même. Hein.
Les Tatars de Crimée.
Les Tatars de Crimée, surtout les Allemands de la Volga, les Kalmouks, les Ingouches, les Tchétchènes. Et tous se sont retrouvés en Asie centrale, majoritairement au Kazakhstan. Donc, si on peut dire comment a été utilisée la République socialiste soviétique kazakh à partir de cette époque-là, c'est une poubelle, c'est la poubelle de l'Union soviétique, c'est la poubelle des peuples, avant de devenir la poubelle nucléaire dans les années 50, avec la mise en place du polygone d'essai nucléaire de Semipalatinsk. Donc à noter quand même pour la mémoire que les Kazakhstanais peuvent avoir de cette période-là, où finalement ils font preuve d'une relative bonne volonté à l'égard de ceux qui leur ont imposé cela. Mais donc des peuples qui sont restés aussi, ce qui explique que le Kazakhstan aujourd'hui compte une centaine de nationalités. C'est une sorte de... C'est l'autre nation arc-en-ciel. Il y avait l'Afrique du Sud, mais il y a aussi le Kazakhstan, toute proportion gardée, bien entendu.
Et alors, comment est-ce que tout ça évolue et tout ça se recompose évidemment avec la chute de l'URSS, puisque on dit, enfin, tout ça, tous ces problèmes qui étaient en germe étaient évidemment gelés par le contrôle soviétique, et puis c'est l'effondrement à partir autour de 90-91. Donc voilà, comment est-ce que ça se place, comment est-ce que ça se recompose et comment est-ce que les sujets émergent ou réémergent à ce moment-là?
Alors très différent suivant les pays. Très différent suivant les pays en fonction de leur potentiel économique. À l'époque, l'Ouzbékistan est la locomotive économique de ces pays. C'est le pays le plus peuplé, il l'est toujours. C'est celui qui est le mieux équipé puisqu'il a bénéficié de beaucoup d'efforts de la part de l'Union soviétique, surtout après le tremblement de terre des années 60 à Tashkent, qui avait été un effort de reconstruction pendant une dizaine d'années de l'Union soviétique. C'est aussi pour le Kazakhstan, qui a un chef à l'époque jeune et énergique en la personne de Nursultan Nazarbayev, qui veut être assis à la table des grands, c'est-à-dire se retrouver avec les présidents de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, de manière à décider du sort de cette future ex-Union soviétique. Donc il y a des fameux accords de Tashkent qui sont signés, et puis on arrive rapidement à la dissolution. Mais il y a des pays qui ont été les laissés pour compte, qui n'ont pas eu leur voix au chapitre, pour qui ça a été une surprise, quasiment une surprise, un bain dans l'eau glaciale. C'est le cas du Tadjikistan. Le Tadjikistan, qui vivait sous perfusion de l'Union soviétique, s'est retrouvé du jour au lendemain avec avec l'année. Alors, pas vraiment du jour au lendemain, parce que pendant les 6 premiers mois, les fonctionnaires ont continué à être payés par Moscou. Donc, d'un côté, le Tadjikistan était indépendant, il avait un drapeau, il avait un hymne, mais il n'avait pas d'armée encore. Il y avait une unité militaire russe qui était stationnée sur son territoire, et les fonctionnaires continuaient d'être payés. Mais on est dans une période très délicate aussi à Moscou, et arrive un moment où ce n'est plus possible, et où là, l'indépendance devient une réalité. Et là, la nature ayant l'horreur du vide, ce qui s'est passé au Tadjikistan, c'est que les passions se sont déchaînées entre le nord, le sud, les néo-communistes, les néo-intégristes musulmans, et donc a commencé une guerre civile sanglante de 1992 à 1997. Donc une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, sans doute plus de 100 000, et qui est alors c'est à la fois si vous voulez, une poussée d'adolescence rapide qui se fait pour un jeune État à peine indépendant. D'un côté, ça lui fait une expérience qu'il conserve pendant. On est déjà maintenant dans la génération qui n'a pas connu cette guerre civile. Donc, pour combien de temps le vaccin contre la guerre civile va-t-il agir au Tadjikistan? Mais en tout cas, c'est un État qui a très mal commencé sa vie de pays indépendant, alors que ça s'est plutôt bien passé pour l'Ouzbékistan, pour le Kazakhstan. Pour le Turkménistan aussi, alors à chaque fois avec des gouvernements forts, avec des chefs dont les noms sont restés, plus aucun maintenant n'est au pouvoir, mais donc il y avait Niazov, dit le Turkménbashi, le grand chef des Turkmènes, qui était
Non, mais
donc.
ça, on peut dire, parce que ça permet d'entrer dans la question effectivement des régimes politiques, parce que c'est souvent un mode d'appréhension un peu minimal de la chose, mais voilà, Niazov, on peut dire, c'était marrant, on a beaucoup rigolé parce qu'il avait sa statue en or sur la place centrale de la capitale Ashgabat. Et c'était une statue en or massive qui s'orientait, qui tournait au fur et à mesure de la journée pour suivre la direction du soleil. Enfin bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un côté sultan potentat orientaux dans le plus grand cliché européen 18e siècle. Enfin bon, il y avait un côté, c'est vraiment, voilà, c'était la région des dictateurs dans les années 90, etc., qui ont tous fait leur truc. Bon, dans quelle mesure est-ce que c'est vrai, ça repose sur une réalité, puis surtout quelle situation ça donne, même d'un point de vue stratégique, sur les relations entre ces pays et sur leurs relations à la Russie, évidemment.
Aujourd'hui?
Bon, même à l'époque, la
Même à
manière dont ça
l'époque?
évolue, en fait.
Alors, L'avantage d'avoir pour interlocuteur un chef incontesté et forcément dans le domaine des relations internationales, je ne parle pas des droits humains, mais c'est plus facile, bien entendu, donc c'est plus facile pour Moscou d'avoir des rapports avec Ashrabat du temps du Turkmenbashi, qui de toute manière avait proclamé la neutralité de son pays. Donc ce n'était pas du poil à gratter donc sur le flanc sud de la Russie. C'était en fait une zone tampon très très honorable par rapport à l'Iran. Ça, c'était déjà une chose.
Rappelons que l'Iran est juste au sud du Turkménistan. Voilà. Tous ces pays-là sont autour de la mer Caspienne, ce qui est évidemment tout un sujet, parce que la mer Caspienne regorge de ressources, notamment en hydrocarbures. Mais que, donc, tous ces pays-là sont autour de la Caspienne, mais en tout cas, ça permettait de faire un glacis par les terres. Enfin, entre la Russie et l'Iran, voilà, il y a plusieurs pays, et notamment ces républiques d'Asie centrale.
Donc excellente relation à l'époque avec Karimov, qui était le président d'Ouzbékistan, qui lui était quand même connu pour souffler le chaud et le froid dans les relations avec Moscou. Bon, l'avantage de l'Ouzbékistan, c'est de ne pas avoir de frontières directes avec la Russie, et donc d'avoir un certain éloignement qui permettait de pouvoir changer de position, ou en tout cas montrer qu'il n'avait pas un interlocuteur exclusif.
C'est-à-dire que les deux seuls pays qui ont vraiment une frontière avec la Russie, c'est donc le Turkménistan par la Caspienne et surtout le Kazakhstan, qui a cette gigantesque frontière terrestre de plus de 7000 km.
La plus grande frontière terrestre entre deux pays au monde, frontière ininterrompue, bien entendu, donc qui est une donnée géographique et géopolitique, bien entendu, incontournable, c'est clair.
Mais alors, justement, qu'est-ce que la Russie laisse? Qu'est-ce que la Russie garde de cette décomposition de l'URSS? C'est-à-dire, on sait que, il y avait des emprises militaires russes partout. On peut penser, par exemple, à Baïkonour, donc la base spatiale du Kazakhstan, qui était évidemment extrêmement centrale pour l'URSS. On imagine bien que la Russie, même post-soviétique, elle n'est pas la lâcher comme ça. Mais il y avait aussi des bases, en fait, un peu partout dans la région. Donc, dans quelle mesure est-ce que la Russie garde ses emprises, ses jalons, et quels liens, notamment militaires, est-ce que ça dessine?
Alors déjà, la Russie tout de suite créé son club, donc la CEI, la Communauté des États indépendants. On pourrait y revenir, je dirais, puisqu'il ne reste plus grand-chose à dire vrai de la CEI. Elle a surtout rassemblé son premier cercle d'amis et au sein d'une alliance militaire qui est l'organisation du traité de sécurité collective qui commence réellement à s'organiser à partir de 2002. C'est pas un hasard d'ailleurs si c'est à partir de 2002, parce que à l'époque, on est quand même dans l'après 11 septembre 2001. On a les forces occidentales qui s'installent dans ces marges sud de la CEI.
On peut préciser que les Américains ont une base aérienne au Tadjikistan, ce qui est évidemment...
Alors, ils n'avaient pas au Tadjikistan. Ils avaient une base au Turkménistan. Alors, ils avaient un point de relâche au Turkménistan. Ils avaient une base en Ouzbékistan. Les Français étaient les seuls à être installés au Tadjikistan, et Américains et Français, plus d'autres Européens, étaient à Manas, à côté de Bishkek, au Kyrgyzstan. Ce qui, rapidement, pour la Russie, qui avait fait preuve d'une extrême bonne volonté dès le début de l'opération, mais qui pensait que ça serait une opération éclair. C'est d'ailleurs ce qui, sans doute, leur avait été dit. Et donc, cette opération éclair, au bout de 3 semaines, 3 mois, bientôt 3 ans, effectivement, ça devenait un peu étouffant pour la Russie d'avoir
un éclair un peu mouillé, peu à détonation lente.
Et donc, du coup, la création de l'organisation du traité de sécurité collective, donc qui regroupe 6 pays. Alors là encore, 2 groupes. 3 pays qui sont à la fois des pays, on va dire, riches, développés, possédant une armée moderne, c'est la Fédération de Russie, c'est la Biélorussie et c'est le Kazakhstan. Et de l'autre côté, on a 3 États qui sont pauvres, donc des économies faibles, qui sont donc du coup réellement des débiteurs de la Russie. Et donc, c'est le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Arménie. Et là, on a trois pays qui sont à la fois pauvres, débiteurs, et qui ont sur leur territoire des bases militaires russes. Donc, il y en a une en Arménie, il y en a une au Tadjikistan, c'est la plus grosse base militaire russe hors des frontières de la Russie, et il y en a une aussi donc, qui s'est créée un peu après la création de Manas pour les Occidentaux, de l'autre côté de Bishkek, c'est Kant, et qui, depuis, est non seulement une base militaire russe, mais en fait, c'est base militaire de l'organisation du traité de sécurité collective. Donc, c'est la manière dont la Russie s'est organisée pour essayer de, à la fois dans la compétition avec l'Occident, montrer qu'elle était présente sur son territoire, sur ce territoire-là, et qu'elle avait des moyens. En ce qui concerne Baïkonour, c'est toujours une emprise russe sur le territoire du Kazakhstan. Et d'ailleurs, quand on va visiter à Baïkonour, on doit présenter ses papiers aux gardes frontières russes. Donc, c'est un système d'extraterritorialité qui est assez particulier, mais pour lequel il y a une location, il y a un bail. Кандугиз 20-чы жылым 1916-чы жылы эч кимге тийбеген жөн жаткан элимди четинен кырып үркүн келди күтпөгөн үй жайын таштап өлүмдөн качып толук тарабасына жүктөгөн барын бары жетелеп кыз балдарын сапар алды Кытайды карай түз жана миң эмес кыргыздын талайы кооптуга жолду өткөнгө жарайбы билемин жарайт билем эч жактан бири Кетип күн баттан кири Караңгылай учурларында шам бири Бизди сатып келген тегерете биримди Биримди Бир асмандын астында Биримдикке бир жол Бир түндүктүн алдында Түндүк түштүк бир бол Бир боз үйдүн ичинде Урпактарга берилген Эгеминди
Non, mais alors, puisqu'on parle de cette organisation du traité de sécurité collective, on peut peut-être avancer un peu rapidement, mais ça, parce que ça nous ramène à l'actualité très récente, en fait, il y a quelques mois à peine, et notamment de janvier, où il y a eu donc ces manifestations très fortes au Kazakhstan, qui ont duré longtemps, et qui ont débouché en janvier sur une intervention militaire russe. Enfin, en tout cas, des pays du traité de sécurité collective, sous ce drapeau-là, enfin bon, c'était essentiellement des troupes, notamment aéroportées russes, qui sont arrivées. Ce qui, évidemment, est aujourd'hui, vu depuis aujourd'hui, c'est une équation à quatre bandes, parce que les Russes étaient pendant ce temps-là en train de préparer ce qu'on sait maintenant être l'invasion de l'Ukraine, donc ils ont été obligés de disperser des moyens tout à l'est, au contraire, sur leur frontière, en tout cas. Pour faire face à ça, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être sur cet épisode, sur les révoltes au Kazakhstan, parce que ça dessine aussi la manière dont ces régimes politiques-là ont évolué depuis les années 90, et sur la réaction, en quelque sorte, de l'organisation, et puis surtout de la Russie, en fait, ce que ça révèle, de ce que ça signifie pour la Russie, cette zone-là.
Alors là, il y a deux questions. Il y en a une qui est, je dirais, vraiment propre à la situation intérieure du Kazakhstan, et l'autre qui est plus sur le rôle et puis les perspectives d'avenir de l'organisation du traité de sécurité collective. Alors c'est vrai que dès le 1er janvier 2022, des manifestations éclatent dans la région de Manguistaou, à l'ouest, donc région proche de la Caspienne, du Kazakhstan, sur l'augmentation brusque, en fait le doublement du prix du gaz de pétrole liquéfié, qui est un carburant très employé au Kazakhstan, déjà par tous les poids lourds, tous les transports en commun, et beaucoup de voitures individuelles. Donc le prix du carburant n'est pas très cher, néanmoins doublé, et surtout un effet de surprise, et donc un cadeau de nouvel an, en fait pas Noël dans les pays de l'ex-Union soviétique, en revanche le premier de l'an c'est normalement le jour des cadeaux, et là c'est une très mauvaise surprise. Dans une région qui avait déjà une tradition de grandes irritabilité sur certains sujets, certains sujets sociaux. C'est le début de ces manifestations et qui dégénèrent très rapidement en situation insurrectionnelle dans l'ancienne capitale, Almaty, qui elle se trouve à des milliers de kilomètres de là, donc l'extrémité sud-est du pays, et une situation face à laquelle le gouvernement et donc le chef de l'État, le président Tokayev, donc sur les comptes rendus qu'il reçoit, sent qu'il n'a plus les moyens de se débrouiller tout seul, et donc il demande l'intervention de l'Organisation de traité de sécurité collective. Donc il demande au secrétariat de cette organisation, qui était assumé à ce moment-là par le premier ministre arménien, Pachinian, qui immédiatement dit oui, et immédiatement de Moscou à l'état-major de l'ODKB, donc ODKB c'est le sigle russe pour l'OTSC, est mise, en œuvre cette organisation. Et donc cette opération, c'est 2000 hommes, avec des norias aériennes pour aller récupérer des petits contingents en Arménie, en Biélorussie, au Kyrgyzstan, et donc tout ça pour arriver en quelques heures, plus des éléments terrestres qui arrivent directement de la Russie, pour permettre la sécurisation des objectifs stratégiques et laisser aux forces de défense et de sécurité intérieure du Kazakhstan la mission de pouvoir rétablir le calme.
Alors qu'est-ce qu'on sait de ce qui... Parce que, vu d'aujourd'hui, puis même sur le moment, c'était une sorte de théorie du... Enfin, je sais pas, du complot, ou en tout cas de billard à huit bandes géostratégiques, en tout se demandant si c'était pas les Américains, en tout cas les forces de l'Ouest, qui avaient favorisé cette insurrection pour justement distraire la Russie, les décourager d'envahir l'Ukraine avec le succès qu'on sait de toute façon par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Là où je dis ça, c'est que sans... même entrer dans ces scénarios-là, en fait, pour que l'OTSC soit mobilisé, c'est qu'il fallait que ce soit une menace plus ou moins vue comme extérieure. L'OTSC n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre. Donc il fallait que ce soit au moins vendu comme, bon, bah, c'est une menace extérieure, donc cette alliance militaire se met en marche, comme d'autres alliances militaires, c'est à ça que ça sert, quoi. Donc qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire de, en fait, cette rhétorique entre les troubles intérieurs et éventuellement les menaces extérieures sur le Kazakhstan en janvier, quoi.
Alors effectivement, vous l'avez souligné, il y a un cadre juridique, et le cadre juridique, c'est l'article 4 de ce traité, de cette charte du traité de sécurité collective, qui s'est voulu dès le départ un peu le pendant de l'OTAN, toute proportion gardée.
Mais c'est pas souvent dans les articles 4-5 ces affaires.
Et donc cet article 4 se veut le pendant de l'article 5 de l'Alliance Atlantique. Donc il prévoit la solidarité et l'intervention, secours mutuel et réciproque lors d'une agression sur l'un des pays membres de l'organisation. Il est vrai que lors de l'appel d'assistance fait par le président Tokayev, il demande l'appui de l'organisation en invoquant justement cet article 4, donc qui est une menace sur la sécurité et l'intégrité du Kazakhstan. Sans en préciser l'origine, puisque à dire vrai, il ne la connaît pas à ce moment-là, et il a les éléments selon lesquels un coup d'État est en préparation. Au sein même de ces organisations de sécurité, de la sécurité intérieure du pays, il y a sans aucun doute, sinon complot, en tout cas une neutralité très bienveillante à l'égard des émeutiers. Et d'ailleurs, le directeur de ses services, Karim Massimov, est actuellement attend son procès et il est quand même jugé pour haute trahison. Et un certain nombre de ses collaborateurs directs ont été arrêtés aussi et donc attendent leur jugement. Donc intervention extérieure, menace extérieure, elle n'a pas été prouvée. En revanche, elle était quand même révélatrice d'un certain malaise au sein même du pays. C'est pour ça que ce que l'on peut dire de ces événements de janvier, alors que les Kazakhstanais appellent le janvier sanglant, Il y a quand même eu quelques centaines de morts, et pas que parmi les rangs des forces de sécurité. Cette situation était quand même révélatrice d'un malaise et d'une situation pour laquelle il faudrait redresser la barre, et qui a été à l'origine des réformes qui sont en cours, et notamment d'une réforme constitutionnelle avec un référendum qui a été voté, et puis des élections présidentielles qui vont avoir lieu dans quelques jours, le 20 novembre, pour un septennat unique. Donc une posture très intéressante du chef de l'État, le président Tokaïev, qui montre qu'il n'a pas de vocation à créer une dynastie et à être un président à vie comme d'autres avant lui.
Et comme c'est un peu le cas dans la région.
Voilà, quelque part, il a rassuré. En fait, il a rassuré le monde entier sur sa respectabilité, mais surtout, il a rassuré ses concitoyens sur le fait que il allait travailler pour eux pendant 7 ans et que il allait faire en sorte que de redresser la barre sur les défauts, les déficiences, les faiblesses qui avaient pu être constatées et dont souffre une partie de la population du Kazakhstan.
Alors maintenant, évidemment, tout ça nous amène vers l'actualité récente et l'Ukraine et la réaction de ces pays, ou leur absence de réaction, ou leur réaction timide, enfin, une réaction timide étant une réaction quand même, d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis de l'invasion russe. Mais peut-être, ce serait bien peut-être de donner un peu de chance, parce qu'on n'a même pas parlé de ce qui s'était passé en fait au début de la guerre, en 2014-2015, c'est-à-dire comment est-ce que ces pays s'étaient placés à ce moment-là, par rapport à la Russie, en sachant que, évidemment, enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis des pays d'Asie centrale qu'on l'a de la part de pays ailleurs, etc., en termes de condamnation, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour le Kazakhstan, qui a 8000 km de frontière avec la Russie, de voter une résolution des Nations Unies que pour un pays d'Afrique centrale. Mais quand même, il y a eu des réactions, ils se sont placés, ces pays-là. Donc déjà, comment est-ce qu'ils ont réagi avec, évidemment, le passif déjà de 2014-2015 en tête?
Et même avant, commençons en 2008, la guerre russo-géorgienne. Après les opérations militaires sur le territoire géorgien, la Russie donc cesse les combats, mais reconnaît unilatéralement les républiques d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Donc déjà, il y a une première action importante de la Russie, pour laquelle, à dire vrai, il n'y a pas eu énormément de réactions, déjà aussi au niveau international. C'est sûr que c'était un signal, mais qui n'était pas encore considéré comme suffisamment fort. L'annexion de la Crimée a été un signal beaucoup plus fort, c'est certain. Très rapidement, à ce moment-là, concerne aussi pour des pays producteurs d'hydrocarbures comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, un moment où les cours sont extrêmement bas et où donc l'économie, qui était florissante jusqu'alors, commence à stagner. Et c'est aussi dans ces pays le début des difficultés, y compris pour les classes moyennes, qui avaient été le grand succès, par exemple au Kazakhstan, du régime Nazarbayev. On a déjà des problèmes. Donc l'engagement au sujet de l'annexion de la Crimée n'est pas très clair. D'ailleurs, il n'était pas si clair que ça dans plein d'autres pays situés plus à l'ouest aussi. Donc maintenant, rétrospectivement, oui, le lien est fait, mais à l'époque, le discours de la Russie sur le fait que la cession par Khrushchev dans les années 50 de la Crimée à l'Ukraine était un cadeau immérité et que finalement la Russie pouvait avoir des droits, ce qui certes n'était pas facile à entendre, notamment au Kazakhstan, Mais bon, il n'y a pas, je dirais qu'à cette époque-là, pas énormément de réactions.
Mais ça, juste, on peut préciser, puisqu'on parlait déjà tout à l'heure du Kazakhstan, de dire qu'il y a un truc qui est peut-être une parenté, en tout cas rhétorique, qui est un peu... Vladimir Poutine a un peu tendance à parler du Kazakhstan comme il parle de l'Ukraine, d'une manière assez générale, c'est-à-dire sur l'idée de la nation, l'indépendance kazakh ou ukrainienne, c'est un peu une lubie, une idée moderne, contemporaine, c'est pas sûr que ce soit vraiment un peuple, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, de ce point de vue-là, évidemment, que pour les Kazakhs, voir ce qui se passe en Ukraine, ça doit les rendre un petit peu nerveux, parce que il y a en tout cas une parenté rhétorique, quoi.
Alors, avant Poutine, il y a eu un grand théoricien de ça, c'était Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, tout content de revenir en Russie après des années d'exil, dit, mais toujours avec ses accents de prophète, la Russie doit atteindre ses vraies frontières, et notamment tout le nord du Kazakhstan, qui n'est finalement que la partie méridionale de la Sibérie. Donc, bien entendu, il n'est suivi par personne à l'époque, et bien entendu, le Kazakhstan à l'époque de Nazarbayev s'oppose quand même fortement à ce genre d'assimilation. Je suis pas vraiment sûr que Poutine se soit jamais réellement prononcé sur quelques irrédentismes légitimes des provinces du nord du Kazakhstan sous prétexte qu'elles sont géographiquement proches de la Sibérie et qu'elles soient peuplées de fortes communautés russophones. En tout cas, c'est sûr que ça fait partie des tabous, des lignes rouges qui peuvent exister dans les relations entre la Russie et le Kazakhstan. C'est sûr que une frontière terrestre qui est à peine marquée, qui est très facile à franchir dans un paysage de steppe, n'est pas défendable, surtout sur cette longueur et avec les moyens militaires du Kazakhstan. Donc le Kazakhstan quelque part est forcé d'avoir des relations de bon voisinage avec la Russie, mais la Russie aussi doit avoir des relations de bon voisinage avec le Kazakhstan si elle veut conserver quand même au minimum quelques alliés. C'est un peu tout le problème de ce qu'on appelle la finlandisation. La finlandisation, c'est une espèce de vassalisation de la politique étrangère d'un pays sous l'impulsion de l'autre. Ça mène aussi à cette vision un peu de post-congrès de Vienne.
Précisons que les Finlandais détestent cette expression.
Bien sûr.
Parce que c'est très désobligeant pour eux et ils ont bien raison de s'en offusquer.
Tout à fait, parce qu'en fait, le pays qui est vassalisé de cette manière-là va devoir faire la révérence à l'un sans forcément montrer son arrière-train aux autres. Donc c'est une position extrêmement délicate, c'est sûr. En tout cas, elle s'est exprimée, je dirais, de manière de plus en plus forte depuis le 24 février. Il est clair que aucun de ces pays n'a reconnu les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Et ça a été dit de manière très forte.
Et d'un point de vue militaire, puisqu'on l'a dit, mais en fait, prenons le truc le plus basique, c'est que la Russie a des troupes dans tous ces territoires-là et que la Russie en a besoin de main-d'œuvre, etc. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on a pu voir des transferts ou pas, de matériel, de personnel? Dans quelle mesure, disons, est-ce que la Russie a puisé dans sa présence centra-asiatique pour alimenter sa guerre en Ukraine?
Alors, sans doute beaucoup moins que on a pu l'écrire parfois, parce que ça faisait assez vendeur. On a parlé de recrutement de soldats dans les pays d'Asie centrale. Il y a pu y en avoir, mais c'était quand même pas si massif que ça. Et surtout, c'est pas nouveau. Parce que la Russie, la Fédération de Russie, fait face à un déclin démographique et a besoin de soldats. Ne serait-ce que pour garder son immense territoire, elle a besoin de soldats. Et donc, depuis plusieurs années, donc bien avant l'invasion de l'Ukraine. Donc le besoin en effectif des forces armées russes s'était traduit par des propositions faites aux citoyens des pays d'Asie centrale, qui d'ailleurs sont nombreux à venir travailler comme travailleurs saisonniers en Russie.
Oui, ce qu'on a notamment dit, c'est qu'à partir de la mobilisation partielle du 21 septembre, il avait pu y avoir un certain nombre de citoyens de République centra-asiatique qui se trouvaient à Moscou ou en Russie et qui ont été enrôlés de ce fait-là, quoi.
Oui, peut-être, il y en a eu. Mais moins nombreux que les Russes en âge d'être mobilisés, qui, eux, ont quitté la Russie et sont venus s'installer au Kazakhstan ou au Kyrgyzstan, où d'ailleurs les prix des loyers d'habitation sont montés en flèche et posent un problème pour la population locale.
Pour fuir la mobilisation partielle.
Ah oui, oui. Donc, alors il y a des comptabilisations qui ont été faites. Alors les autorités du Kazakhstan prennent en compte les nombres d'entrées, mais aussi les nombres de départs. Donc ça veut dire aussi que, profitant de l'union douanière avec le Kazakhstan, des Russes sont entrés au Kazakhstan, mais pour en ressortir et après prendre des vols commerciaux sur d'autres pays. Mais quand même, Beaucoup sont restés, ont pris des emplois, où donc ils sont en concurrence avec la population locale, souvent parce qu'ils sont capables de présenter des niveaux de diplôme qui sont plus élevés. Et puis aussi, donc ils se sont installés sur place et ont pris des logements devenant de plus en plus rares, sont devenus plus chers et donc moins accessibles aussi bien aux Kirghizes à Bishkek qu'aux Kazakhstanais à Almaty ou à Astana.
Et ça, justement, on peut dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des conséquences plus indirectes, disons, qui sont le fait que ce sont évidemment des pays qui sont très dépendants économiquement encore de la Russie, alors pas tous à égalité, mais quand même qui ont une vraie coopération. La Russie est quand même le principal partenaire économique de ces pays. Et ça, de ce point de vue-là, eh ben, les sanctions qui touchent la Russie, évidemment, les touchent aussi par ricochet. Et du coup, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la perspective d'une crise économique à moyen et long terme? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que c'est des pays qui, tout en n'ayant pas soutenu, en tout cas officiellement, tout en n'ayant pas pris position pour la Russie, vont être frappés en contre-coup de ce qui est en train d'arriver à la Russie progressivement?
Alors, c'est sûr que la situation est très difficile et très délicate. C'est sûr que ça amène ces pays à revoir leur circuit d'exportation lorsqu'il s'agit de matières premières. Il y a aussi les incidences sur les nouvelles routes de la soie. Donc, qui sont initiés, financés par la Chine, donc en tout cas la partie terrestre de cette initiative, traverse le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, emprunte les voies ferrées, et donc a pour but aussi de traverser la Russie, mais aussi d'atteindre l'Union européenne jusqu'au port de Riga. Donc ça fait partie des éléments qui sont aussi des éléments encourageants quand même, puisque il y a quand même une garantie derrière qui est celle de la Chine.
On en reparlera évidemment parce que ça fait partie des perspectives et des évolutions possibles, mais parce que ça fait aussi partie du panorama militaire, on peut dire que c'est aussi, on a vu aussi le réveil depuis ces derniers mois de tensions entre ces pays, notamment de combats à la frontière kirghizo-tadjik, entre Kyrgyzstan et Tadjikistan. Et c'est intéressant cette affaire, parce que ça pose la question de la sécurité dans la région, mais c'est quelque chose qui était déjà arrivé à l'été 2021, ça s'était calmé assez rapidement sous la pression russe, qui avait joué le rôle de stabilisateur dans la région, mais là, quand même, ce qui a éclaté, alors on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça fait quand même une centaine de morts depuis quelques semaines. Ça semble s'être calmé, mais il faut toujours voir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, disons, des conséquences de la guerre en Ukraine et du fait que la Russie est occupée ailleurs sur la sécurité, sur les conflits intérieurs à cette région?
Là encore, deux volets. Alors, s'agissant des problèmes frontaliers, d'ailleurs au niveau des enclaves, entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, c'est un problème récurrent. Chaque année, il y a des accrochages. Parce que chaque année, il y a des déplacements de bornes, il y a des franchissements de frontières.
Les bornes de la frontière.
Ah, mais oui, non, mais oui, au niveau des enclaves. Au niveau des terres.
Pour essayer de gratter quelques centaines de mètres.
Ah, mais tout à fait, c'est comme ça que ça se passe. Et du jour au lendemain, il y a une petite baraque en bois qui est construite, juste du mauvais côté de la frontière. Et bien entendu, ça soulève la colère des paysans. Interviennent les gardes frontières de part et d'autre. Alors les gardes frontières, c'est pas des gentils douaniers. Les gardes frontières, ce sont des militaires qui sont armés et dont la mission consiste à rétablir une situation en utilisant leurs armes. Et donc ils le font avec des bilans qui sont effectivement assez éloquents. Mais donc ça, c'est un problème récurrent. On n'en parle plus maintenant. Mais on en parle plus maintenant aussi parce que c'est certain que la Russie n'assure pas un rôle de modérateur. D'ailleurs, lorsque le 14 septembre ça a repris, on en était déjà la 12e fois depuis le début de l'année 2022 où il y avait ce type d'accrochage. Donc ils sont quasi hebdomadaires ces accrochages.
Et ouais, il y a des morts à chaque fois.
Il y a des morts à chaque fois. Et la Russie, effectivement, n'est pas en mesure.
C'est pas comme le long de la frontière sino-indienne où vous me direz, ça va être à coups de cailloux et ça fait des morts aussi à la fin. Mais là, c'est quand même, ils se tirent dessus, ça fait des bilans assez rapides, quoi.
Oui, parce que les zones sont quand même peuplées. On a un problème ici, c'est que on a deux États membres de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective qui s'affrontent. Et donc, on peut difficilement demander aux autres membres d'intervenir militairement pour les séparer, apparemment. En revanche, le rôle de modérateur de la Russie ne s'est pas vraiment exprimé. Surtout du président Rahmon, du président Tadjik, je crois cette année, pour la première fois, pas souhaité. Il a son anniversaire à un jour près. Même à la même date, à la même époque que Vladimir Poutine. Et donc ils ont l'habitude de se retrouver, et apparemment cette année ils ne se sont pas retrouvés. Il doit y avoir quand même un petit peu de brouille.
Pour se faire un resto, enfin...
disons que c'était amical et ça permettait d'échanger sur, comme on dit, les sujets d'intérêt régional. Là, c'est sûr que les sujets d'intérêt régional, la coupe est pleine, il y en a beaucoup, on peut dire que l'organisation du traité de sécurité collective est en état de mort cérébrale, pour reprendre une expression qui a fait Flores à son époque. La mort cérébrale, eh bien, parce que le cerveau, c'est en haut, c'est qui le cerveau? C'est le chef, c'est la Russie. Il est occupé ailleurs, et donc il se fait autiste sur des questions qui sont dans son flanc sud. La reprise aussi, à la même époque de mi-septembre, des combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, cette fois-ci non plus seulement sur le territoire de l'Artsakh du Haut-Karabakh, mais directement sur le territoire arménien, n'a pas suscité de réaction de la part de Moscou. Et là, pour le coup, on avait une agression sur le territoire d'un État membre de l'OTSC, et pour lequel, eh bien, la demande d'assistance de Pachinian n'a pas reçu l'accord de Moscou, qui ne tenait pas à se brouiller avec l'Azerbaïdjan.
Et la Turquie. Mais ça, là, ça fait quand même un moment que je pense que l'Arménie a compris que la garantie de sécurité, ou en tout cas l'alliance russe, fallait pas trop compter dessus. En tout cas, c'était la guerre du Haut-Karabakh qui l'a assez bien montré. Mais, comme on sait, parfois, des organisations, même en état de mort cérébrale, reviennent miraculeusement à la vie. Qui sait ?
Oui, lorsqu'elles ont atteint une certaine maturité, ce qui est le cas de l'OTAN, ce qui est plus difficile à imaginer pour l'ODKB. Surtout que là, maintenant, comment faire confiance à un allié qui a pris l'habitude de venir grignoter le territoire, militairement, le territoire de ses voisins? C'est quand même difficile de pouvoir adhérer.
Et enfin, on a commencé à en parler, mais c'est les perspectives, Voilà, évidemment, c'est des États qui sont dans l'orbite proche de la Russie, qui vont pas en sortir. La frontière russo-kazakh, elle va pas changer de tracé. Mais, on voit des signes dans cette absence de validation, dans cette absence de reconnaissance des républiques séparatistes. Et puis, vous l'avez dit, mais il y a d'autres acteurs dans la région. Il y a la Chine, qui manifeste son intérêt depuis longtemps avec les routes de la soie, avec les nouvelles routes de la soie. Il y a aussi la Turquie, puisque tout ça, ce sont des pays qui partagent certaines dimensions culturelles avec la Turquie, notamment la religion musulmane. Voilà, comment est-ce que ces États-là, enfin ces puissances-là, essayent d'étendre leur influence sur cette Asie centrale, et quels signes on voit à la fois que Moscou est ou pas en mesure de le contrecarrer, et d'intérêt peut-être de ces pays pour peut-être diversifier leurs alliances.
Alors le problème n'est pas nouveau. Déjà en 1981, un excellent livre français sortait sous le titre Le milieu des empires, auquel avait collaboré mon grand ancien, le colonel René Cagna. Le milieu des empires, entre l'empire soviétique à l'époque, la Chine populaire, mais aussi, non pas une puissance étatique, mais tout ce qui était l'Orient islamique. C'est vrai que depuis, les affaires se sont bien précisées. Et à l'heure actuelle, comme vous l'avez dit, on a d'un côté la Chine, donc acteur économique très important avec les routes de la soie, également acteur au sein et co-président au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, donc cette coopération qui permet dans la même enceinte à avoir Russes et Chinois et donc les États d'Asie centrale, plus d'autres observateurs, qui sont là pour échanger des renseignements, des éléments de sécurité, qui font de temps en temps des exercices qui ressemblent tout à fait aux exercices militaires, d'ailleurs, de l'OTSC. Et puis, on a la Turquie. Alors très récemment, on a eu la réunion, le sommet, donc en Ouzbékistan, des chefs d'État de l'Organisation des États turciques, qui regroupe donc quatre républiques d'Asie centrale, c'est-à-dire en fait toutes sauf le Tadjikistan, qui n'est pas turcique, puisque la langue tadjik est à rapprocher du farsi, et toute l'histoire est une histoire indo-européenne et proche de l'Iran, en tout cas au plan culturel. Comme observateur, la Hongrie, en plus. Bon, c'est à cause des uns. En fait, les uns qui venaient du Kazakhstan sont allés faire des raids en Europe occidentale. Ils ont été arrêtés par Sainte-Geneviève à Lutèce. Ils ont été défaits au champ catalonique, à côté de Chalon-sur-Marne. Et après, ils sont partis prendre de longues vacances d'hiver près du lac Balaton en Hongrie. Et donc, voilà pourquoi le prénom de Attila est toujours très porté en Hongrie. Donc la Hongrie se trouve membre de l'Organisation des États turciques. Donc c'est intéressant parce que... Comme quoi
les justifications historiques d'alliances géostratégiques sont toujours tirées par les cheveux, artificielles dans tous les cas, et sacrément tirées par les cheveux dans un paquet.
Effectivement. Et donc de ça, il faut, je dirais, pour répondre pleinement à votre question, je crois que des pays comme notamment le Kazakhstan ont bien compris que une entente exclusive avec un pays n'est plus possible depuis longtemps. Ces pays ont d'ailleurs donné un nom à leur diplomatie, parlent de diplomatie multivectorielle, parfois même omnivectorielle, pour dire que ils parlent à tout le monde et que ils ne se restreignent pas.
C'est vrai que c'est un joli nom pour dire on parle à tout le monde. Diplomatie omnivectorielle.
Tout à fait ça. Et donc l'idée aussi, c'est d'être invité à un club et de prendre ce qui va bien de ci de là, un petit peu comme si on se présentait à un buffet. Et donc il est certain que les bonnes relations de bon voisinage avec la Russie continueront d'une manière ou d'une autre, que les relations avec la Chine se renforcent. Ça, c'est clair, parce que lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en septembre, donc il y avait lieu en Ouzbékistan encore, le président Xi Jinping s'était rendu d'abord au Kazakhstan avant d'aller en Ouzbékistan et avait donné quand même des assurances à ces pays sur le fait que leur intégrité territoriale n'était absolument pas menacée, qu'au contraire, la Chine était plutôt là pour la garantir. Donc un pas important de la Chine, alors que jusqu'à présent, la Chine avait plutôt un langage modéré, voire indifférent, par rapport à ses problèmes chez ses voisins, et surtout concernant les relations avec la Russie. En ce qui concerne les éléments que ces pays d'Asie centrale peuvent retirer de leurs relations avec la Turquie, il y a bien entendu des éléments économiques également. Il y a beaucoup d'entreprises turques qui sont implantées dans la région et qui travaillent depuis fort longtemps. Ça permet aussi d'avoir des relations. Ces pays sont pour la plupart partenaires de l'OTAN dans le cadre du partenariat pour la paix. Et donc avoir une relation avec la Turquie, il existe déjà des relations de coopération militaire avec la Turquie qui sont plus aussi des achats de matériel militaire qui sont communs ou proches de ceux qui équipent les forces armées turques. Donc il y a pour ces pays des éléments à prendre dans les relations avec la Russie, dans les relations avec la Chine, dans les relations avec la Turquie. Mais ne plus se réserver d'exclusives, c'est sans doute l'une des grandes leçons de la situation actuelle.
Merci beaucoup, colonel Samaran.
Merci à vous.
C'était, donc évidemment, on suivra tout ça dans les semaines et les mois qui viennent. C'est pas la zone qu'on regarde le plus attentivement, mais en même temps, comme vous le dites, je crois que c'est aussi un révélateur potentiellement de là où la Russie en est dans ses alliances et dans son influence internationale. Et je crois qu'on gagnerait à garder un œil sur ce qui va se passer en Asie centrale dans les mois et les années qui viennent. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques, commentaires, notes et retours sont tous les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou sur les outils d'Apple Podcasts ou de SoundCloud. Tout ça est vivement apprécié, aide à la diffusion du podcast, tout comme le bouche à oreille, le fait que vous parliez autour de vous du podcast, de ses différents formats, aux gens qui pourraient en être intéressés. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.